Bonsoir mes frères et sœurs. Le titre de ma prédication est celui-ci, je vois quatre hommes sans lien. Nous allons faire une première lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 8, où nous voyons Goliath qu'il parle d'une manière injurieuse au peuple de Dieu. On va juste lire une phrase de Goliath qu'il a répétée 80 fois en vérité, puisqu'il nous est dit au verset 16 de ce chapitre, c'est quand même important de voir la répétition des attaques de l'ennemi. 1 Samuel chapitre 17, verset 16, regardez bien, le Philistin, c'est important que nous puissions le lire, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours, qui est le chiffre de l'épreuve. Et au verset 8, on va lire la dernière phrase, enfin l'avant-dernière phrase, juste cette parole, « N'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» Voilà comment l'ennemi inspirait Goliath en disant aux Hébreux, « N'êtes-vous pas des esclaves ?» Rappelez-vous de cette parole, on y reviendra tout à l'heure, on va aller beaucoup plus loin du temps du prophète Daniel. On va lire Daniel chapitre 3, on va lire à partir du verset 4. Peut-être la lecture est longue, mais je vous demande de bien suivre cette lecture. N'oubliez pas que dans chaque texte, il y a un enseignement pour nous édifier ou pour amener un pécheur au salut. Daniel chapitre 3, verset 4. Daniel chapitre 3, verset 4. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. » Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent pas compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes à qui avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Amen, 2 fois. Vous croyez à cette histoire? Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps compliqués, à tel point que Jésus a dit qu'à cause de l'iniquité, à la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà la description à une phrase de ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. C'est vrai que quand vous regardez les informations, quand il est parlé des églises, pour les gens, les églises, c'est toutes les églises, vous entendez parler de scandales sexuels, de pédophilie, de procès. Et pour les gens du monde qui regardent l'église en général, ils voient plus de péchés dans l'église que dans le monde où ils sont. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse agir dans un contexte aussi catastrophique. Et nous sommes dans un monde où toutes ces choses perturbent le cœur, et d'un autre, nous voyons un Dieu qui est capable de nous rappeler sa puissance. C'est vrai, et c'est pour ça que j'ai lu le texte dans Samuel, où nous voyons combien l'ennemi fait tout pour détruire la personnalité des gens. Vous êtes des esclaves. L'ennemi, lui, par exemple, vous voyez, comme le temps de l'Église touche à sa fin, que bientôt il va nous prendre, l'Église est en droit de se poser la question, est-ce que c'est toujours notre place sur la terre? Puisque bientôt on va partir. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons honnêtes. Si Dieu enlève les chrétiens, c'est que l'Église n'a plus sa place sur la terre. C'est évident. C'est une pensée, mais c'est une bonne pensée. Donc, nous pourrions laisser l'ennemi nous culpabiliser matin et soir que nous n'avons plus notre place sur la terre, que nous sommes des esclaves en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et non, tant que l'Église sera sur la terre, elle aura sa place de vivre ce que nous avons chanté avec des cantiques qui conviennent plus ou moins, vous le comprendrez, mais il n'empêche que nous pouvons vivre dans la victoire. Le diable est le spécialiste du lavage de cerveau. Matin et soir, 40 fois, ça fait 80 fois. Répétez, vous êtes des esclaves, vous n'êtes pas à votre place, c'est pas votre pays, etc. Vous savez, l'ennemi, il sait y faire pour nous culpabiliser, pour la fausse culpabilité. La bonne culpabilité, c'est une bénédiction. Quand nous sommes culpabilisés parce que nous avons commis un péché, c'est une bénédiction. Tiens, j'ai commis un mensonge, je me sens repris, c'est grave, je demande vite pardon à la personne, pardon au Seigneur. La vraie culpabilité provoquée par le Saint-Esprit est une bénédiction. La fausse culpabilité est vraiment une malédiction. Il y a des gens, ils sont tout le temps en vrac parce qu'ils sont tout le temps en train de se culpabiliser. Là, nous venons de lire une histoire vraiment encourageante. Alors, il faudrait peut-être lire aussi le verset 1 du chapitre, le verset 17, car il y a un prix qui a été payé. Ces jeunes avaient décidé, parce que la victoire qu'on a chantée est le résultat d'un choix, en fin de compte. C'est pas des gens qui sont dans la victoire et des gens qui sont dans la défaite comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans l'Église. La victoire, c'est un choix qui est préparé, en fin de compte. Regardez au chapitre, on va lire le verset 17 du chapitre 1er. On pourrait en lire d'autres, mais bon, le temps nous manque. Mais quand même, ça suffit, le verset 17 peut-être. Dieu accorda à ces quatre jeunes, gens de la science, donc de la sagesse, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les singes. Pourquoi Dieu a-t-il accordé à ces quatre jeunes gens de l'intelligence, de la sagesse, etc. ? Parce qu'ils étaient meilleurs ? Non, ils n'étaient pas meilleurs. Parce qu'ils ont choisi de payer un certain prix de consécration, d'obéissance. Bien sûr que nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait comment ça s'est achevé, je n'ai pas lu encore le reste, et c'est peut-être très facile, quand on connaît la fin de l'histoire, en tous les cas, ça nous pénalise beaucoup. Mais j'aimerais qu'on revienne au verset 18 de cette lecture qu'on a fait tout à l'heure. Shadrach, Meshach et Abednego, dont c'est le nom, c'est pas leur vrai nom, c'est les noms que le roi leur a donné, c'est des noms païens. Il s'appelait en vérité Shadrach, c'était Anania, Meshach, c'était Michaël, et Abednego, il s'appelait Azaria, c'était des noms hébreux. Et là, ils ont des noms païens qui parlent de dieux païens, etc. Même si une notion de victoire dans certains. C'était des hommes à qui on avait changé l'identité. C'est pour ça que je vous ai dit que le diable, il fait tout pour détruire notre identité. Nous devons être nous-mêmes, nous sommes des chrétiens, nous devons être fiers d'être des chrétiens, d'être des enfants du Dieu vivant, et nous ne devons pas laisser l'ennemi détruire notre personnalité. Et en changeant les noms, c'était vraiment une image de l'ennemi qui essaie de détruire notre personnalité. Est-ce que vous le comprenez ça? Le diable, il essaie de détruire notre personnalité chrétienne. Donc, ces trois jeunes hommes, qui ne s'appellent pas en vérité comme ça, mais ça les a pas perturbés. Vous savez, eux, ils n'étaient pas perturbés par le fait que l'ennemi essayait de détruire leur personnalité. Ils avaient, eux, gardé leur vrai nom, croyez-moi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils sont devant le roi, ils n'ont pas peur. Il y en a beaucoup qui auraient pu dire, attends, mais avec le poste que vous avez, vous êtes des intendants. C'était des ministres. Des Hébreux qui avaient été amenés en captivité et qui, par rapport à ce qu'ils avaient reçu, à ce qu'ils avaient obtenu, à ce qu'ils avaient donc demandé. C'est pas le sujet de la prédication, mais laissez-moi vous dire que si Dieu a accordé à ces jeunes gens de la sagesse, de l'intelligence, etc., c'est parce qu'ils l'ont demandé. Croyez-moi, peut-être on le terminera tout à l'heure pour vous l'expliquer un peu mieux. Ils l'ont demandé. Il y en a qui ont dit, attendez, vous êtes ministre, vous rendez compte le témoignage que vous pouvez avoir, vous rendez compte l'impact que vous pouvez avoir sur tous les gens. Qu'est-ce que ça vous coûte de vous prosterner 30 secondes devant une statue? Franchement, on ne va pas faire un flamme pour ça. Mais vous savez, mes frères et sœurs, c'est peut-être ce qui devrait nous préoccuper vraiment, nous aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des idoles, pas de fer et de bois et d'argent, mais des idoles dans lesquelles les chrétiens se prosternent aujourd'hui. On va y revenir. En tous les cas, eux, ils sont dans la détermination. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Trois réponses. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Voilà, ils étaient dans la foi. Eux, ils étaient dans la victoire. Ils auraient pu chanter les cantiques qu'on a chantés. Le deuxième, peut-être pas, mais les trois autres, ils auraient chanté. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Sinon, Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, et même s'il ne nous délivre pas de la fournaise, nous, on lui fait confiance. Il sait ce qu'il doit faire. C'est ça que ça veut dire, sinon. Il y a des mots dans la Bible, ça vaut quand même la peine que nous nous y arrêtions. Ils avaient compris que quelle que soit l'issue, Dieu savait ce qu'il faisait. Et ça, ça devrait peut-être nous enseigner. Il pouvait être délivré, c'est ce qui va arriver, mais mieux encore, on va le voir. Mais ils connaissaient Dieu. Ils n'avaient pas reçu de la sagesse et de l'intelligence pour être supérieurs aux autres. La sagesse, la connaissance, l'intelligence qu'ils avaient, c'était la connaissance vraiment du Seigneur. Et ils savaient, mais ils le savaient dans leur cœur, que Dieu prendrait soin d'eux, qu'il intervienne ou qu'il n'intervienne pas, Dieu s'occupait d'eux. Est-ce que vous croyez que Dieu s'occupe de vous? Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez, c'est normal que vous ne le croyez pas. Vous n'allez pas vous devenir des gens, comment on appelle ça, des gens qui sont adeptes de la méthode Coué, qui vont essayer de se convaincre, oui, il a raison, c'est vrai ce qu'il a dit. Non. Ils avaient reçu certaines choses qui leur permettaient, au moment d'une épreuve terrible, d'être dans un repos total. Écoute, on n'a pas besoin de te répondre. Notre Dieu peut nous délivrer. S'il ne nous délivre pas de la fournaise, il y a une solution. Il ne nous abandonnera pas quand même. Ça, c'est sûr. Eux, ils ne voulaient pas adorer un autre Dieu. Est-ce que ce n'est pas là qu'il faudrait arrêter la prédication et dire, mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie des malentendus? Parce que des malentendus, je peux vous dire qu'il y en a. Moi, j'en ai entendu toute ma vie des malentendus. Des gens qui ont dit, Seigneur, tu vois, je t'obéirai si tu fais ce que je te demande. Vous l'avez jamais entendu, ça? Vous l'avez jamais entendu? Seigneur, si tu fais ça, je te servirai. De leur dire, si tu ne le fais pas, et il va falloir faire sans moi. Comment ça s'appelle, ça? C'est du chantage. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est totalement intéressé. C'est totalement ridicule. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Eux, ils sont dans une confiance totale. On te répondra. C'était le roi quand même. Les rois qui faisaient ce qu'ils voulaient d'ailleurs. Qui avaient pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. On n'a pas besoin de te répondre. Dieu peut nous délivrer. S'il le fait, c'est bien. S'il ne le fait pas, il y a une bonne raison. C'est exactement ça que ça veut dire. Ces hommes étaient sages, mûr et intelligent. Est-ce que vous demandez à Dieu? Je vous le dis, alors c'est pas du tout pour vous mettre mal à l'aise, mais c'est pour quand même qu'on soit conscient des besoins. Est-ce que vous demandez à Dieu de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, de la maturité? Est-ce que vous le faites ou est-ce que vous le faites que quand je vous le dis? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de bénédiction qui tombe par hasard sur un ou sur une, comme ça. Il y a tout un travail. C'est pour ça que je vous ai lu ce verset 17 dans le chapitre 1er, où il y a une maturité, une intelligence, une sagesse qui sont le résultat d'une véritable recherche. Et vous avez exactement là, en plus, l'enseignement. Écoutez bien, mes frères et sœurs, je ne prends pas le temps de tout expliquer, mais vous avez là l'idée exacte de ce que c'est la liberté. Vraiment, vous avez là le témoignage de la véritable liberté. Des gens qui n'ont pas besoin de donner des explications à tire l'arigot, des gens qui ne sont pas embarrassés par des milliers de gens qui sont là, par le roi de ce monde qui impose sa dictature ou son lavage de cerveau. Parce que croyez-moi, je me demande comment ils font, les gens qui sont tout le temps en train de regarder les informations en boucle, ils sont vraiment, c'est du lavage de cerveau, c'est pas deux fois par jour, c'est 10 fois par jour qu'ils entendent les mêmes âneries, et les gens, ils sont programmés à la défaite. Ce texte nous prouve que la paix qui surpasse l'intelligence dont Paul parle est une réalité. Vous savez, quand il dit la paix qui surpasse toute intelligence. Ils aimaient Dieu, vraiment ils aimaient Dieu, et ils lui faisaient confiance. C'est une question qu'on peut vraiment se poser. Est-ce que, où j'en suis d'une vraie confiance avec Dieu? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si on vous avait dit, mais écoute, prosterne-toi, tu te rends compte, ton témoignage, le témoignage, parce qu'aujourd'hui on en est là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aberration dans laquelle on en est. on demande aux gens presque au nom de rendre un bon témoignage de faire des compromis. Des compromis. Je sais ce que c'est, je peux vous le dire. Non, ils savaient où ils en étaient. Ils savaient, ils connaissaient les choses, même s'ils étaient jeunes, même s'ils avaient un super poste dans le gouvernement. Ils savaient où ils en étaient. Ils savaient que dans le ciel, il y a un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Heureux sont les chrétiens qui croient que dans le ciel, il y a un héritage incorruptible. Vous savez, il y a une chrétienne qui a dit à ma femme il y a quelques mois, non mais moi j'étais, c'est pas une chrétienne ici, mais c'est une chrétienne. Elle lui dit, mais bon d'accord, Jésus-Christ, tout ça, il est mort pour nous, il a versé son sang, mais les nouveaux cieux, tout ça, la nouvelle terre, le paradis, vous y croyez vraiment? Une chrétienne? Oui, c'est grave. C'est pour vous dire ce que la personne a reçu. Elle n'a rien reçu. Elle n'a rien reçu. Une chrétienne. Dieu sait ce qui est le meilleur pour vous. Vous le croyez, ça? Il le sait. Il le sait. Même s'il ne répond pas, pour le moment, comme nous aurions aimé qu'il nous réponde. Et les gens qui sont tout le temps en haut et tout le temps en bas, c'est des gens qui ont un problème de confiance véritable avec Dieu. Alors les statues de Nebuchadnezzar, il n'y en a plus. Mais laissez-moi vous dire que des idoles modernes, il y en a. Plus d'une. Elles ne sont pas forcément dans les coins des rues, mais je peux vous dire qu'elles sont souvent dans le cœur. Est-ce qu'on peut avoir des idoles dans le cœur? Est-ce que c'est écrit? Ézéchiel 14, regardez ce texte. Mes frères, mes sœurs, vous avez envie que le Seigneur soit avec vous, dans la bénédiction et dans l'épreuve. C'est un des buts de ce texte. Eh bien, commençons à nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie des idoles dorées devant lesquelles je me prosterne sans m'en rendre compte? C'est ça le but, le côté important de cette exhortation. Ézéchiel 14, verset 2 à 4. Alors, c'est un texte que je vous demande peut-être de méditer dans vos cultes personnels. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles. Alors, elles sont où les idoles? Dans leur cœur. Vous voyez? Personne ne le voit, ça. Ils attachent. Alors, c'est sûr que la suite, c'est simple quand on connaît. Ils attachent les regards sur ceux qui les fait tomber. Je vous parlais au début de l'iniquité qui envahit le monde. Les idoles dans le cœur, vous savez, des gens qui sont des heures entières sur Facebook, sur les réseaux sociaux, la télévision, Internet, moi je pense que c'est une idole. Vous allez me dire, mais non, monsieur, vous devenez légaliste avec le temps. Moi je pense que quand ça nous empêche de nous tenir devant Dieu, moi je pense que c'est une idole. C'est vraiment une idole dans le cœur. En plus, vous voyez le résultat, Dieu pose la question, me laisserais-je consulter par eux? Donc ça veut dire qu'au niveau de la prière, ça va être difficile. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards sur ceux qui le fait tomber dans l'iniquité, s'il vient de s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai. Alors on voit bien que s'il y a une repentance, mais ça nous fait tomber les idoles. Les idoles, ça nous fait tomber dans l'iniquité, c'est-à-dire c'est dans le péché que ça nous fait tomber. Il y en a des idoles dans les cœurs. S'il y a quelque chose dans votre vie, dans ma vie, qui m'empêche d'avoir une véritable communion avec Dieu, c'est une idole. C'est pas compliqué. Si les réseaux sociaux vous prennent la tête, je sais pas, moi on va rentrer, voyons, on va partir à la maison, si vous restez jusqu'à minuit, je sais pas moi, sur votre portable, j'en sais rien, et que demain matin vous n'arriviez pas à faire votre culte, vous portez une idole dans votre cœur. Ne me dites pas, monsieur Gaume, vous allez trop loin. Je vous le dis, si vous perdez du temps avec des trucs qui n'ont aucune utilité, qui vous empêchent de vous prosterner devant le Dieu vivant, c'est une idole. Acceptez-le, ne perdez pas de temps. La fournaise, c'est l'image des épreuves. C'est l'image de toutes les épreuves plus ou moins dures que l'on peut traverser. On n'a pas tous les mêmes épreuves. Ouais, c'est vrai ou c'est pas vrai? Un jeune célibataire qui souffre n'a pas la même épreuve qu'un gars qui est marié, qui a 5 gosses à élever. Mais ça peut être une fournaise pour tous les deux. Oui ou non? Exact. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. C'est pas la même épreuve. Mais, par exemple, croire que Dieu nous a abandonnés. Il y a des gens qui sont tout le temps, je sais pas si Dieu est avec moi. Bon, c'est sûr que s'il y a des idoles, ça aggrave cette iniquité. Mais, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu est tout puissant? Cette histoire, elle est là. Les trois amis de Daniel sont le résultat d'hommes et de femmes qui, malgré la captivité, eux, ils n'étaient pas chez eux. Eh bien, ils ont tout abandonné. Tout abandonné. Même leur poste de ministre. Ils ont tout abandonné entre les mains du Seigneur. Soit Dieu intervenait, soit Dieu les soutiendrait. Vous le comprenez, ça? C'est ça, la fournaise. La force de supporter l'épreuve. Sinon, moi ce mot, j'ai failli même donner comme titre à ma prédication, juste ce mot, sinon. Bon, après les gens ne comprendront pas. Mais ça veut tout dire, s'il ne le fait pas, les résultats sont malgré tout dans sa main. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, un des enseignements de ce chapitre extraordinaire, c'est que nous ne sommes pas responsables des résultats. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire. On ne le sait pas. Comment Dieu va intervenir par rapport à des situations que je ne maîtrise pas, puisqu'il y a une fournaise, puisqu'il y a un combat. Nous ne sommes pas responsables de tous les résultats, mais par contre, nous le sommes de notre obéissance. Et c'est là que nous devons véritablement coincer cette parole dans la prédication, comprendre que si nous ne sommes pas responsables, c'est comme les conversions. Est-ce qu'on est responsable des conversions? Non, mais on est responsable d'être de bons témoins. Vous êtes d'accord? Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mais on ne peut pas convertir les gens. Par contre, nous sommes responsables de rendre un bon témoignage. Et là, c'est pareil. Nous ne savons pas quelle fournaise va se présenter, quelle épreuve va se présenter, quelle difficulté va se présenter, les gens qui vont être pour ou contre nous, etc. Mais il faut être responsable de l'obéissance. C'est ça que Dieu attend. Un jour, on a posé cette question à Job. Job n'aime-t-il pas Dieu en vain? Vous voyez, les amis de Job aussi, ils étaient forts. Hein? Non, Job aimait Dieu parce qu'il était Dieu. Et je peux nous poser la question, mais pourquoi nous aimons Dieu? Pourquoi nous aimons Dieu? C'est une question à laquelle il faudrait répondre. Si vous en êtes, moi je vous le dis vraiment, c'est pour pas que vous perdiez du temps. Si vraiment vous en êtes à ce que je disais tout à l'heure, « Oh Seigneur, si tu fais cela pour moi, je ferai cela pour toi. » Si vous en êtes dans cette affaire-là, moi je vous plais vraiment. C'est que votre communion avec Dieu est superficielle. Alors, ce qu'il y a de merveilleux quand même dans cette obéissance, puisqu'on est responsable de notre obéissance, ça il faut bien se rappeler. Si vous devez retenir qu'une chose ce soir, retenez celle-ci. Nous sommes responsables de notre obéissance. Mais ce qu'il y a de merveilleux là-dedans, vraiment de merveilleux, c'est que dans la fournaise, il n'était pas seul. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si on réalise vraiment. Dans la fournaise, le Seigneur était avec eux. Vous ne trouvez pas ça? C'est l'image de l'incarnation, Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est une des plus grandes bénédictions. Dans ce chapitre, bien sûr. Le Seigneur était avec eux. Le Seigneur aurait pu rester sur le côté. Oui ou non? Ou du haut du ciel? Est-ce que Dieu pouvait s'en occuper du haut du ciel? Ben oui. Mais bien sûr. Il n'a pas besoin de se déplacer. Mais nous, Dieu a voulu que nous sachions que dans cette affaire, le Seigneur, il était là, dans la fournaise. C'est extraordinaire. Hein. Dieu ne les a pas délivrés du haut du ciel. Dieu était avec eux. Je comprends pourquoi on l'appellera Emmanuel. Et quand on chantait le dernier cantique, il s'avance. Je dis, Seigneur, oui, tu t'avances. Oui. Beaucoup même. Pas qu'au calvaire. Tu t'avances dans nos épreuves. Tu t'avances dans notre fournaise. Que son nom soit béni. Ça ne vous rassure pas que de savoir que Dieu peut être avec vous dans vos fournaises? En pensant à ce texte, j'ai pensé à un autre texte dans la Bible, on va le lire d'ailleurs. Je vous le cite d'abord avant que vous ne le cherchiez. Il est dit dans le chapitre qu'on va lire, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. C'est bien? Bon, c'est dans Hébreu, au chapitre 13 et au verset 5. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le contexte. Parce que les gens, ils récitent des promesses ou des versets n'importe comment. Il y a un contexte. Dans quel contexte Dieu dit qu'il sera avec nous? Eh bien, regardez, c'est important parce que Dieu n'est pas avec Dieu. Oui, Dieu est partout. Mais pour que Dieu soit avec nous, pour que Dieu fasse en sorte que nous ne craignions rien. Parce que c'est vrai que c'est quand même frustrant de chanter des cantiques, de beaux cantiques, presque tous les cantiques étaient beaux, qu'on a chanté, de beaux cantiques, et de ne pas les vivre. Vous ne croyez pas? Franchement, vous ne croyez pas que c'est dommage de chanter des cantiques sur la victoire et de tout le temps de la défaite? Donc regardez. Donc c'est le verset 5 qu'on a lu. La fin du verset 5, je ne te délaisserai point. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Contexte. Le contexte, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Vous voyez, c'est le contexte. Est-ce que c'est important de, eh bien, d'honorer sa famille, d'honorer le mariage, voyez? Le lit conjugal, exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voyez, on en revient toujours à cette affaire d'idolâtrie. L'adultère, c'est pas que l'adultère moral. Il y a l'adultère spirituel aussi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? L'adultère, ce n'est pas qu'un homme qui trompe son conjoint, sa compagne. L'adultère, c'est aussi un homme qui est un autre Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Il faut le comprendre. S'il y a de l'adultère spirituel dans ma vie, Dieu n'est pas obligé de soutenir cette promesse. Dieu a délivré les trois amis de Daniel parce qu'il n'y avait pas d'adultère dans leur vie. D'adultère spirituel. Il était avec eux. Nous sommes responsables de l'obéissance. Mes frères et sœurs, c'est archi important. Parce que cette histoire de Daniel, ça a duré combien de temps cette affaire-là? Ça aurait pu durer combien de temps qu'il se prosterne pour n'en parler plus? Une minute. Vous voyez, dans la vie, il y a des temps qu'il ne faut pas louper. Des petits temps parfois qu'il ne faut pas louper. Croyez-moi. Vous savez, on a un Dieu, puisqu'on est dans Daniel, on va prendre Daniel. Oui, je le fais exprès. On va prendre Daniel, parce que Daniel 2, verset 20. Dans une autre situation, je pense, mes frères et sœurs, qu'il faut comprendre. Une prédication, ce n'est pas une bonne prédication. Ce n'est pas un bon message. Tiens, c'est passé vite, c'est intéressant. Non! Une bonne prédication, c'est recevoir une pensée de Dieu qui va me faire faire des progrès. Mais je suis responsable de l'obéissance. Ça a duré une minute. Une minute dans leur vie aurait pu faire basculer tout leur itinéraire. Daniel 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Regardez bien, mes frères et sœurs. C'est lui qui change les temps et les circonstances, etc. Qui renverse les tables et les rois, qui donne la sagesse, etc., etc. Il le sait, il l'a vécu. Ou ailleurs, dans l'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Dieu peut tout changer, quand il veut, en son temps. Et des fois, c'est des petites expériences d'une minute, d'une journée, d'une heure, qui font la différence et qui révèlent vraiment notre obéissance. Mais je vous le répète, s'il y a une idole dans votre vie, Dieu n'est pas obligé d'être là avec vous dans n'importe quelle fournaise. Par contre, ce que je vais dire, c'est peut-être certains ne le comprendront pas bien, mais si vous obéissez, Dieu est obligé d'être avec nous, parce qu'il est engagé par sa parole. Il est obligé. Il s'est engagé. Le Seigneur lui-même a dit, je serai avec toi. Et il peut être avec nous dans dans les fournaises. Alors que Dieu nous garde des faux dieux. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des faux dieux? Et voilà, le problème, il est là. Alors, peut-être juste, parce que bon, c'est une autre prédication, mais enfin, c'était le titre, en fin de compte, mais regardez quand même. Ils sont jetés dans la fournaise avec des liens. On les attache. D'accord? On les attache, peut-être les mène à le dos, on les a jetés dans la fournaise. Et qu'est-ce qui se passe? On l'a lu, c'est quand même à lire, quand même. Je vois quatre hommes sans lien. Les vêtements, même pas les cheveux ont été sentaient le roussi, rien. Il n'y a qu'une chose qui a brûlé dans la fournaise, les liens. Je ne sais pas si vous réalisez l'enseignement de cette affaire. Que dans l'épreuve, ce qui s'en va, ce sont nos liens. Alléluia, vous pouvez dire. Est-ce que vous réalisez? C'est pas beau ça? Parce qu'après tout, ils auraient pu ressortir attachés. Après tout, ce n'était pas un gros problème pour Dieu. Oui ou non? Il ressort, il y a juste les liens que Dieu a fait tomber, qui ont brûlé. Pour être plus encore classe. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Des liens qui tombent. La seule chose qui tombe dans l'épreuve, c'est ce qui nous bloque. Que son nom soit béni. Je vois quatre hommes sans liens qui marchent dans le feu. Et le visage du quatrième, c'est un fils de Dieu. Ah ben oui, là, il ne s'est pas trompé. C'était pas un fils de Dieu, c'était le Dieu Tout-Puissant qui était avec eux dans l'épreuve. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je répète pour terminer, le résultat, moi je ne sais pas. Je ne sais rien, Dieu il le sait. Quand est-ce que je dois mourir, si je dois vivre plus vieux, plus longtemps, tout ça, est-ce que c'est important? Non, Dieu il sait. Par contre, je suis responsable d'obéir. Je vais rentrer à la maison. Seigneur, je ne veux pas me prosterner devant des dieux modernes dans mon cœur qui m'empêchent de t'adorer. Vous êtes d'accord avec cette prédication? Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai